Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'Atelier des médias. Cette émission vient en écho au 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Car les lignes bougent dans de nombreux secteurs sur les questions de représentation des femmes, de leur place dans les organigrammes ou encore de leur rémunération. C'est aussi le cas dans les médias, nous en avons à plusieurs reprises parlé dans cette émission. Aujourd'hui, on va se pencher sur un collectif de femmes qui s'est structuré à partir de 2017 et s'est donné pour nom les filles de la photo. Elles sont quelques 250 adhérentes, mais il n'y a pas de photographe dans le groupe, il faut le signaler. Cette association forme un véritable réseau de professionnels, qui s'est donné pour mission de valoriser et défendre la photographie et les photographes, femmes et hommes. Je reçois deux de ses cofondatrices, des filles de la photo, qui publient un livre blanc intitulé « Y voir plus clair dans le méli-mélo de la photo, vers les bonnes pratiques dans les processus de sélection ». Elles ont aussi impulsé un observatoire de la mixité femmes-hommes dans le monde de la photographie.
RFI.
Bonjour Chantal Nedjib.
Bonjour Steven Jambeau.
Vous êtes consultante, cofondatrice des filles de la photo, initiatrice et porteuse de ce projet de livre « Y voir plus clair dans le méli-mélo de la photo ». Et bonjour Florence Moll.
Bonjour.
Vous êtes agent de photographe et cofondatrice des filles de la photo. Les filles de la photo, c'est une association, on pourrait presque dire un think tank, un laboratoire d'idées, qui s'est donné pour mission de valoriser et défendre la photographie, principalement d'auteur. Expliquez-moi, Florence, la genèse des filles de la photo.
Avec un immense plaisir, Steven. Les filles de la photo, c'est trois cofondatrices. Il y a aussi Marion Islaine, qui avait déjà réuni tout le terrain, tout le terreau des filles de la photo. En nous réunissant de manière informelle, elle était directrice à ce moment-là du Festival Circulation. Ensuite, elle est devenue déléguée à la photographie au ministère de la Culture. Mais en ce temps-là, elle arrivait à pratiquer ce qu'on appelle les transversalités. Et ça, elle la mettait vraiment en pratique. Donc, autour de Marion, il y avait un nombre de professionnels. Alors, c'était... Alors, les filles de la photo, quand est-ce qu'on prend un apéro?
Et c'est ça, c'était filles de la photo. Des rendez-vous informels, mais qui permettaient de faire se connecter les
Exactement.
Gens, et notamment des filles.
Et qui ne se rencontrent jamais autrement, parce qu'aujourd'hui, on sait, l'association, c'est environ 25 métiers réunis autour de la photographie. Donc pas de photographes, mais des femmes qui constituent le réseau des professionnels, c'est le premier réseau féminin de l'écosystème de la photographie.
Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le monde de la photo, celles et ceux qui accompagnent les photographes, le sexe féminin est majoritaire, ultra majoritaire.
Absolument. Et on se rendait bien compte aussi chez les photographes qu'elles étaient majoritaires sur les bancs des écoles, mais très vite, il y avait une évaporation. Mais cela dit, avant tout, on s'est constitué en tant que réseau de femmes, parce qu'on sait aussi que les femmes ne savent pas toujours bien faire réseau. Donc l'idée, c'était aussi de faire ensemble des choses, d'avoir des projets comme celui-ci. Le premier, c'était l'observatoire de la mixité dans l'écosystème de la photographie que j'ai eu l'honneur de piloter en version 1. Et puis le second, c'était avec Chantal l'année suivante. C'était généré par l'époque MeToo, très clairement, cet observatoire. On s'est constitué avant. C'est-à-dire que c'était une sorte d'air du temps, les filles de la photo. On a très vite eu des adhérentes, on s'est créé pendant les rencontres d'Arles. Donc on a notre anniversaire chaque année pendant la semaine professionnelle des rencontres d'Arles. Assez rapidement, MeToo nous a tous percutés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc on s'est dit, bon, les filles de la photo, un réseau comme le nôtre, ne peut pas rester ni évidemment pas insensible, mais ni silencieux. Et à partir de ce moment-là, on a créé cet observatoire de la mixité.
Chantal Nedjib, vous avez un parcours de communication où vous, dans une vie lointaine, vous avez été attachée de presse dans des cabinets ministériels. Et puis pendant longtemps, très longtemps, vous avez été directrice de la communication de CCF, devenue HSBC durant 25 ans. Et qu'avez-vous voulu apporter à ce collectif des filles de la photo? Quel esprit avez-vous essayé d'insuffler lorsque Florence et Marion vous ont sollicité?
Écoutez, je ne voulais pas insuffler quelque chose, puisqu'elles sont gentiment venues me chercher, ce qui m'a d'abord étonnée, puis évidemment rendue très reconnaissante, parce que j'ai appris beaucoup de choses en les aidant, entre guillemets, à constituer cette association et en vivant cette association et ce réseau. Ce que je peux imaginer leur avoir apporté, c'est l'expérience que j'avais de l'entreprise, c'est-à-dire une manière de réfléchir qui n'était pas peut-être une manière de réfléchir dans le milieu de la culture, non pas que l'un réfléchit bien et l'autre ne réfléchit pas bien, mais ne réfléchit pas de la même manière. Et puis la façon d'aborder la photographie pour d'autres secteurs que le milieu purement culturel. Donc c'est d'apporter ce souci de la vie économique, de la vie financière, des impératifs de l'entreprise et de la manière de regarder la photographie autrement. Ce que j'avais commencé à faire dans l'agence que j'ai créée après la direction de la communication d'HSBC, c'était déjà ça, c'était de tisser des liens plus profonds entre le secteur culturel, photographique et l'entreprise.
Alors, on vit dans un monde d'images depuis plusieurs décennies maintenant, mais l'idée, et pour vous, ce que vous avez essayé de défendre aussi dans votre parcours professionnel, c'est de donner du sens au choix de la photo, parce que ça n'a pas toujours été le cas.
Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'est pas toujours encore le cas. J'ai une conviction profonde, c'est que la photographie, l'art en général, mais en l'occurrence on parle de photographie, quand elle est utilisée par une entreprise, doit lui apporter du sens.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas
le plaquer.
On ne va pas utiliser des images de stock, comme on dit, des images qui sont faites par des agences et qui ne représentent pas le réel.
Voilà, en fait. Alors tout dépend évidemment ce dont on a besoin et pour quel usage. Une image de stock peut être utilisée pour des usages assez quotidiens, j'allais dire. Mais quand il s'agit de faire une campagne de publicité, quand il s'agit de raconter ce qu'est l'entreprise, de signifier ce qu'est l'entreprise, il faut que l'image ait du sens et il faut qu'elle soit singulière.
Juste pour expliquer pour nos auditeurs, quand on dit image de stock, c'est qu'il y a des banques d'images en ligne qui sont à disposition et qui permettent aux entreprises qui le souhaiteraient d'avoir rapidement et pour pas cher des images prétextes qu'elles vont pouvoir utiliser dans leur communication. Et ça, c'est quelque chose que vous essayez de dire que c'est complètement bête de faire ça.
Je dirais pas que c'est bête.
Je simplifie peut-être un petit peu trop.
Non. Là, c'est un peu caricatural, mais je comprends que vous disiez ça. Ça n'est pas bête, parce que parfois c'est utile quand on a besoin d'illustrer dans la journée sur son site internet une actualité. On n'a pas le temps de passer une commande à un photographe pour aller fabriquer l'image dont on a besoin. Donc ces images de stock, elles sont utiles à ce moment-là, évidemment. Et il ne faut pas oublier que des photographes les font, ces images, et qu'ils sont rémunérés pour ça. Donc il y a aussi une économie, même si elle n'est pas formidable, mais c'est quand même une économie. Mais quand il s'agit de prendre la parole en tant qu'entreprise, c'est-à-dire de lancer une campagne de communication, une campagne de publicité par exemple, il est important que le type d'image qui va être montré corresponde à ce que dit l'entreprise. Il faut qu'il y ait une approche du sujet qui ait à voir que l'écriture du sujet, parce qu'une photographie, elle est écrite, elle est signée, elle dit quelque chose.
C'est un travail d'auteur.
C'est un travail d'auteur. Merci de me le souffler, parce que c'est exactement ce que je cherchais. Ce travail d'auteur, il doit correspondre à ce que l'entreprise cherche à raconter. On parle de raconter une histoire, ça veut dire raconter une histoire par l'écrit, mais aussi par la photographie. Et c'est ça qui est important de chercher pour une entreprise, un photographe ou une photographe qui a cette signature, cette approche de la photographie et donc de l'histoire que l'entreprise va vouloir raconter, qui corresponde.
Florence Moll, vous êtes agent de photographe et avec les filles de la photo, vous voulez encourager les bonnes pratiques entre les photographes et les décideurs du secteur de la photo, au sens le plus large du terme, pour une meilleure compréhension mutuelle. Pourquoi ? Parce qu'on ne se comprend pas, on ne se parle pas assez, il n'y a pas les documents méthodes, dites-nous concrètement.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de méthode. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce livre blanc aussi a vu le jour. C'est que ce n'était pas non plus une volonté de donner une méthode, mais de permettre un dialogue. Parce qu'on ne s'entend pas forcément, on ne se comprend pas forcément. Aussi bien du côté des photographes que des décideurs, de ceux qui peuvent passer la commande et tout type de commande, que ce soit une exposition ou une commande publicitaire ou commerciale. Donc ce livre, il peut servir à cela, mais c'est vrai que à travers mon métier, on y travaille constamment. L'idée, c'est d'amener des auteurs, des gens qui ont une signature, des auteurs ou des artistes. Hein, on peut être l'un et pas l'autre, mais à comprendre aussi quel est l'intérêt d'un annonceur, d'une entreprise
ou d'une institution,
à leur passer commande. Et donc ça veut dire travailler en permanence sur la question de la passerelle. Comment je reste moi-même dans ma signature en image et comment je vais vers l'autre pour comprendre quelles sont ses attentes et comment on crée cet espace d'intersection, en fait. Tous ne savent pas le faire. Il m'arrive de voir des photographes formidables qui n'ont aucune envie de répondre à ce type de commande-là.
Il y a le savoir-faire et le faire savoir aussi. En gros, savoir se vendre, concrètement.
Savoir se vendre. Alors, l'agence sert à ça, parce que c'est compliqué de tout faire. On n'a pas toutes les cartes en main. Moi, je n'ai pas la position de l'artiste. Donc, on est complémentaires. On se choisit. C'est vraiment des questions de dialogue. Ça doit être un dialogue permanent entre un photographe, un agent et l'écosystème, le milieu vers lequel on se tourne pour faire connaître. En effet, un travail, une démarche sur du long terme.
Votre souhait est aussi que les photographes réussissent à vivre de leur art ou de ce métier qui passionne beaucoup de monde, mais dans lequel il est compliqué parfois de faire sa trace, sa place.
Oui, absolument. La question de l'économie est centrale. D'ailleurs, ce livre blanc aussi veut servir ce sujet, c'est-à-dire faciliter une économie, faire profession, faire profession, mais aussi, évidemment, pouvoir améliorer son économie. Bon, il y a toujours cette question chez les gens qui sont créatifs de perdre son âme. Donc, je suis aussi proche des écoles, j'interviens au Gobelin ou à l'ENSP avec grand plaisir. Et l'idée, on est beaucoup de professionnels à porter ça, qu'on soit institution, plutôt commande, commerciale, etc., à leur dire, vous ne perdrez pas votre âme si facilement. Allez-y, faites de la commande. Je dirais que l'erreur à ne pas commettre, pour nous, ce serait de communiquer sur n'importe quoi. On ne fait pas que des travaux dont on est fier visuellement, mais qui permettent de payer son loyer. Et ceux qui gagnent, c'est aussi ceux qui payent leur loyer.
Nous sommes dans l'atelier des médias de RFI. Il y a un chapitre de ce livre, Y voir plus clair dans le méli-mélo de la photo, qui est consacré aux médias, avec donc quelles seraient donc les bonnes pratiques à partager, avec d'un côté ce que devraient faire les médias et de l'autre côté ce que devraient faire les photographes. Les médias devraient faire preuve de pédagogie, expliquer concrètement ce qu'ils attendent des photographes en matière de ligne éditoriale, en matière d'exigences techniques aussi. Le fait qu'ils devraient prendre davantage de stagiaires photographes, d'ouvrir leurs portes aux photographes. Cet atelier, expliquez-nous autour des médias, comment est-ce qu'il s'est constitué ?
Alors, comme tous les autres ateliers, en fait, nous avons appelé les tables rondes. Nous avons constitué 10 tables rondes autour de 10 métiers différents. Si vous voulez, je peux les citer pour donner une
Allons-y.
Idée. Allons-y. Donc, on a réuni 10 professionnels autour des prix, autour des résidences, des galeries, des institutions, c'est-à-dire les musées, les centres d'art, autour des écoles, parce que on a, comme disait Florence tout à l'heure, il y a beaucoup d'apprentis photographes dans des écoles. On a également eu une table ronde sur les festivals. La commande, agence de communication et agent, comme l'a expliqué Florence tout à l'heure, enfin, dont Florence a expliqué le métier, et puis les annonceurs en direct, et puis les éditeurs et les médias dont vous parlez. Alors, à chaque fois, ce que nous avons cherché à faire dans ces ateliers, table ronde, c'était de réunir des responsables de différentes sortes, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, pour des médias, des grands, des plus petits, de l'économie, du régional, du spécialisé, etc. Donc, on a essayé d'être assez ouvert pour représenter différents types de médias et pas avoir une parole unique.
Là, dans cet atelier, par exemple, il y avait des gens de Mediapart, de La Croix, Libération, Polka Magazine, Les Échos, Fichaille, Géo ou encore l'AFP.
Voilà, donc merci beaucoup de les citer. Donc des généralistes, une agence, des spécialisés dans la photographie. Donc ces médias, en fait, finalement, on en a retiré un certain nombre de principes communs. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les médias recherchent quoi qu'il arrive. Ils cherchent bien sûr du talent, comme tous les autres secteurs de la photographie. Les photographes doivent avoir du talent.
Une touche aussi.
Et ils doivent avoir leur singularité, leur touche, leur signature, leur manière d'écrire. Donc les médias vont chercher les photographes qui correspondent le mieux à ce qu'ils attendent de leur faire faire ou de leur acheter. Ce qu'on a repéré, c'est qu'il y a malgré soi, et on peut tout à fait le comprendre, un entre-soi. C'est-à-dire que les médias, parce que la rapidité de la demande est telle, vont au plus simple parfois. Ça ne veut pas dire qu'ils vont au plus mal. Ils ont des très très bons réseaux de photographes, mais quand une commande arrive, il faut illustrer un article pour demain, on a un sujet la semaine prochaine qui doit se fabriquer loin. Moi, en tant que média, je ne peux pas me permettre de tester un nouveau photographe.
J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit...
Qui assure. Il faut qu'il assure, il faut qu'il sache le faire. Je suis sûre qu'il va le faire dans les délais. Le média doit être sûr qu'il va le faire correctement, qu'il va fournir le nombre de photos dans lequel le média va pouvoir puiser, que la signature va correspondre à ce qu'il attend. Donc, ils ont tous, et c'est le cas dans les autres métiers, des viviers de photographes qu'ils ont déjà, disons, avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Donc ça, c'est une chose qui, évidemment, à terme, peut poser un problème avec des photographes qui n'arrivent jamais à rentrer dans certains des médias. Et on a constaté à plusieurs reprises que quand l'iconographe ou le directeur photo d'un média change, comme par hasard, il y a des nouveaux photographes qui arrivent. Ça n'est pas un hasard, c'est que c'est son portefeuille. Il l'a testé. Alors, d'où l'histoire des stagiaires. Alors, ces histoires de bonnes pratiques, tout de même, expliquons comment ça se passe. Nous avons demandé à chaque participant dans cette table ronde, nous leur avons dit, voilà ce que les photographes nous ont dit, parce qu'on avait fait, avant les tables rondes, des interviews, 33 interviews exactement de photographes, pour essayer de comprendre quels étaient leurs freins dans la pratique photographique vis-à-vis de ces acteurs. Donc, on leur a demandé, qu'est-ce qui vous étonne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne? Et si ces freins vous étonnent ou pas, est-ce qu'on peut imaginer ensemble, avec l'idée que nous avions de co-construire des bonnes pratiques, est-ce que vous avez des idées de la manière dont on pourrait arranger les choses? Et une des idées qui est sortie pendant cet atelier, et qui était d'ailleurs effectuée par certains des médias, c'est de prendre des stagiaires. Parce que ces stagiaires sont la plupart du temps des photographes, et que par ce biais-là, c'est un moyen aussi de les tester, de leur faire comprendre aussi comment marche le média et de pouvoir avancer.
Florence Meul, on parlait tout à l'heure du fait de savoir se vendre. Effectivement, lorsque l'on veut proposer son travail à un média ou à une institution, à une entreprise, eh bien, il faut adapter sa proposition, son portfolio, son CV, sa lettre de motivation, que sais-je. On n'envoie pas la même chose à tout le monde.
C'est certain. Et d'ailleurs, on n'est soi-même pas si multiple que cela. C'est-à-dire qu'il faut s'être trouvé quand même. Il faut déjà avoir trouvé son talent, mais à l'intérieur de son talent, avoir compris là où on est le plus fort ou la plus forte. Ça, c'est important. Donc, il y a tout un travail de sortie d'école, plus quelques années quand même, où il faut bien s'accorder le fait que l'on continue à chercher jusqu'à avoir bien identifié là où on se ressent le mieux. Comme en général dans la vie, hein, il faut aller là où ça vibre. Donc, on n'est pas photographe au sens large, on est aussi photographe de quelque chose, d'un monde, d'objets, nature morte. Moi, j'adore la nature morte, par exemple. Une fois qu'on a identifié cela, bien évidemment, il faut creuser quel récit on crée autour de sa spécialité. Et puis, une fois qu'on a créé ce récit, en effet, on peut aller vers l'autre, fort ou forte de ce récit. Il y a une exigence quand même, quelles que soient les commandes, c'est qu'il faut avoir développé la maîtrise technique de sa discipline, de son domaine. Ça, c'est certain. Donc, parce que la photographie, c'est aussi un lieu dans lequel on peut voir, on a pu voir à une certaine période des photographes qui arrivaient sans technique avec un œil. En jazz, vous débarquez, c'est même pas la peine, vous sortez pas une note, quoi, vous sortez pas un morceau. La photo est assez particulière par rapport à cela. Donc, il faut continuer aussi à travailler sur cette question d'exigence technique qui ne tue pas le talent, qui l'amplifie.
Chantal Nedjib, vous êtes consultante. Dans ce réseau Les Filles de la Photo, il y a eu la volonté aussi de développer l'influence des professionnels, et défendre les femmes, mais aussi les hommes photographes. C'est une démarche que vous avez voulu collectivement inclusive. Expliquez-nous pourquoi, alors que l'on diffuse cette émission en écho à la Journée internationale des droits des femmes.
Oui, tout à fait. Certes, nous défendons les femmes quand c'est nécessaire, et nous l'avons vu, Florence peut en parler encore plus largement, de l'Observatoire de la mixité. Un certain nombre de constats ont été faits à ce moment-là, qui montraient que les femmes avaient plus de difficultés à montrer leur travail, par exemple, que les hommes dans certaines situations, voire dans beaucoup de situations. Donc là, on a mis en place un certain nombre de mesures pour défendre les femmes photographes, plus, non pas plus que les hommes, mais disons de manière plus spécifique que les hommes, avec des tête-à-tête entre les expertes des filles de la photo, des actions de mentorat, etc., sur lesquelles, Florence, si tu veux, tu pourras revenir tout à l'heure. Mais nous avons la conviction qu'on ne peut pas faire changer ce monde sans les hommes. S'il y a des questions qui se posent de discrimination ou simplement de déséquilibre des femmes dans ce secteur, on peut faire toutes les actions possibles, mais si les hommes ne sont pas inclus, n'en prennent pas conscience et ne se mettent pas en mouvement avec nous, ça ne marchera pas. Florence, tu me rappelais quand on venait en chemin tout à l'heure qu'un de nos intervenants de l'Observatoire de la mixité, Antoine de Gabrielli, venait sortir d'un livre dont tu vas rappeler le titre, parce que moi, je ne l'ai pas retenu, et qui dit exactement ça. Tu veux en dire un mot ?
Oui, ça s'appelle, elle est sortie la semaine dernière, hein, S'émanciper à deux, le couple, le travail et l'égalité. Et c'est un homme de l'entreprise qui travaille, hein, qui a créé une association qui s'appelle Mercredi, c'est papa, et une autre dont j'ai plus le nom en tête. Mais il parle bien de cette question de l'amont. Si on ne réfléchit pas ensemble, c'est pas les femmes toutes seules qui vont pouvoir... c'est pas des super-héroïnes. Il faut éviter ce fantasme de la super-héroïne qui est aussi très enfermant, qui est un autre piège.
Florence Moll, vous en parliez tout à l'heure en début d'émission, cet observatoire de la mixité femmes-hommes qui a été lancé en 2020. Deux éditions se sont tenues en 2020-2021. Quelle était l'ambition derrière cet observatoire ?
C'est d'être utile, d'observer, d'objectiver le mieux possible, de générer des actions dont Chantal a parlé. Il y a eu les tête-à-tête, il y a eu le mentorat. À chaque fois, on a quand même des réponses. On voit bien que ça correspond à un besoin énorme. Hein. On a entre, grosso modo, avec chaque action, 200-300 postulantes à chaque fois.
Donc, l'un de vos constats, c'était que les femmes proposent beaucoup moins leur travail que les hommes, et leurs propositions et demandes sont moins acceptées, prises que celles des hommes.
Il y a deux dimensions. Elles sont globalement assez présentes, les femmes, sauf dans les domaines à enjeux économiques. Elles sont plus timides dès lors qu'il va s'agir de se valoriser par l'argent. Donc il y a quand même une question de confiance en soi aussi, très très clairement. Enfin, en gros, il y avait trois conclusions dans ce premier observatoire, que l'on a ensuite creusé à travers la seconde fois. Mais il y avait la confiance en soi. Il y avait la parentalité, les freins dans la parentalité qui sont importants, et on a constaté, et c'était assez frappant d'ailleurs, que il y a moins de femmes photographes mères que d'hommes photographes pères. Donc c'est quand même assez parlant, hein. On s'autorise pas dans ce cas-là. Enfin, ça c'est tellement précaire que on va pas jusqu'à constituer une famille. Et puis il y avait la clarté dans les processus de sélection, et ce livre blanc vient d'une de ces conclusions-là. Donc l'ambition, elle était d'être utile, mais toujours avec quand même cette conviction que l'inclusivité devait faire partie de notre positionnement. Il ne s'agissait pas de ne parler qu'à une partie de notre milieu, mais bien à l'intégralité de notre milieu. Je pense que le message est passé.
Puis il y a aussi des verrous intellectuels à faire sauter, voilà, des réserves de la part de certains acteurs à commander à des femmes, puisqu'ils se disent que le matériel sera peut-être lourd, certaines missions sont peut-être dangereuses, etc.
Il y a Tristupin du Nouvel Obs qui a fait un mea culpa qu'elle dit très très clairement, en disant qu'elle s'est rendue compte, mais voilà, en fin de carrière finalement, qu'elle avait été vers ce que Chantal décrivait, hein, vers des hommes dont elle était sûre qu'ils allaient assurer, il n'y avait pas des questions de grossesse, etc. Et elle s'en est beaucoup voulu, à tel point qu'elle a créé un festival à Oulgat qui s'appelle Les Femmes s'exposent, pour compenser, donner une voix aux femmes. On a des gens aussi en institution, comme Simon Baker, qui a fait un choix qui lui-même dit qu'il est radicalement féministe et qui sort là d'une année de programmation exclusivement féminine. Donc ça amène des prises de conscience aussi, tout cela. On a eu à l'époque de l'Observatoire le livre très intéressant d'Yvan Jabloncœur qui s'appelle « Des hommes justes », qui a été une sacrée secousse, parce que quand on voit que quand même on a aussi des inconscients collectifs qui se sont constitués depuis le néolithique. Quand on prend conscience de ça, on se dit que si on ne fait pas le boulot tous ensemble, on n'y arrivera pas.
Il y a également la question de la représentation des femmes dans l'espace public, dans la photographie au sens large, que cela soit dans les médias, dans la publicité, où elles sont parfois absentes ou mal présentées, Chantal Nedjib.
Elles sont absentes sans être absentes, mais peut-être qu'on les voit moins. D'abord, les signatures des campagnes de pub, à part les spécialistes, personne ne les regarde. Or, il y a des grandes femmes photographes de publicité. Alors, ne me demandez pas les noms, parce que immédiatement, quand je les cherche, ils disparaissent de mon esprit. Donc, ça va me venir quand je vais sortir du studio, ce qui est affreux. Peut-être que Florence va pouvoir m'aider.
Ça pourrait faire des...
Et puis des jaloux. En revanche, si vous permettez, pour rester sur ce sujet, tout de même sans évacuer la question, dans le travail d'enquête que nous avons fait pour le livre, on a constaté que 19% seulement des publicités étaient faites par des femmes. Donc ça vous donne l'enjeu qui existe, sans vouloir donner de nom et faire de jaloux des uns des autres.
Sur un observatoire qui a quelques années, et on espère créer aussi constituer un point de surveillance pour voir les évolutions dans quelques années. On est toutes bénévoles, donc ça demande aussi énormément de travail. Mais ce qui est vrai, c'est que les femmes ont beaucoup plus de mal à dire « je ». Et notre réseau, aussi pour les professionnels, on parle beaucoup des photographes, mais notre réseau, il est aussi axé sur les professionnels qui apprennent à dire je et qui se placent, grâce à cette instance collective, dans des partages d'expertise et au service de projets communs qui nous amènent aussi à prendre parole différemment. Et l'association, elle joue aussi ce rôle-là.
Juste rajouter une chose par rapport à ce que vient de dire Florence. Un des acteurs nous a raconté qu'une femme, une femme photographe, lui avait confié qu'elle avait tendance à dire ses doutes et à exprimer ses doutes à des annonceurs ou des agences qui lui passaient des commandes, et que ça, elle avait compris que ça la mettait dans un état de faiblesse. Et donc, elle avait commencé à apprendre à ne plus exprimer certains doutes par rapport à un travail qui était demandé à avoir des questionnements sur un travail. Et donc, ça aussi, c'était très intéressant que les acteurs l'entendent.
Il y a la question du doute. Je vais permettre que vous me posiez votre question suivante, parce qu'elle est fondamentale. Ce n'est pas comme si les hommes ne doutaient pas. Les hommes doutent, bien évidemment, mais c'est la manière d'y répondre. Alors, on a pu l'objectiver aussi dans l'Observatoire. C'est intéressant, c'est assez frappant comme image. Quand il y a une candidature, avec évidemment un certain nombre d'items auxquels répondre, on a pu se rendre compte que les hommes décident de candidater, donc pensent correspondre aux attendus, quand ils répondent à peu près 60% des attendus. Et les femmes, elles y vont quand elles pensent correspondre à 100% des attendus. Quand on a un gap de 40% où le doute est répondu par la décision de s'absenter, de ne pas se présenter, le retrait.
Donc il faut prendre confiance en soi et se
oser.
Dire... Et oser.
Il faut oser.
Même quand on ne répond pas forcément totalement à la commande ou à la demande.
Il faut arrêter de vouloir être parfaite.
Mais il faut tout de même rester vigilant sur la question du sujet. On n'est pas obligé de répondre d'être parfaite, certes, mais il faut malgré tout répondre à quelque chose qui correspond à son travail.
On ne candidate pas, mais être dans les clous quand même.
Voilà, faut être dans les clous.
Le livre Y voir clair dans le millimélo de la photo est accessible gratuitement au format numérique sur lesfillesdelaphoto.com. Pourquoi ce choix, Chantal Nedjib, vous qui avez initié et porté ce projet?
Ce choix, il est très dans l'esprit des filles de la photo. C'est que nous souhaitons défendre la photographie, les femmes et les hommes photographes. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition le plus facilement possible le travail que nous avons fait et qui était un travail que nous avions appelé le livre blanc des bonnes pratiques. Donc l'idée d'un livre blanc, c'est de mettre à disposition du grand public concernés les travaux qui sont effectués. Donc, il était naturel pour nous de le rendre accessible. Alors, il est accessible en ligne, il n'est pas téléchargeable, parce que là aussi, nous avons considéré que le travail qui avait été fait avait une valeur, et que, certes, la lecture est accessible, mais l'objet qui est imprimé maintenant, grâce à des partenaires que j'aimerais bien citer d'ailleurs.
Allons-y.
Le ministère de la Culture, la DAGP, la Maison européenne de la photographie, l'imprimeur, donc Escourbiac, la Fondation Swiss Life, et puis l'aide de la Galerie Egoa et de Manifesta à Lyon, chez qui nous allons faire un événement d'ailleurs dans 15 jours. Ces partenaires nous ont aidés à imprimer ce livre, et il nous a semblé que cette valeur devait être cette fois-ci payante, évidemment.
Au prix de 18 euros d'ailleurs.
18 euros, voilà. On peut l'acheter sur Achevé d'imprimer et en librairie sur demande, et bientôt de manière un peu plus facile, mais enfin sur demande dans les librairies, disons. Mais il restera accessible pendant un an sur le site des filles de la photo.
Merci Chantal Nedjib.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes consultante, cofondatrice des filles de la photo, initiatrice et porteuse donc de ce projet de livre. Et merci Florence Moll.
Merci à vous.
Vous êtes agent de photographe. Y voir plus clair dans le méli-mélo de la photo, vers les bonnes pratiques dans les processus de sélection, c'est un livre blanc des filles de la photo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lesfillesdelaphoto.com. À bientôt, à toutes les deux.
Merci.
À bientôt.
Alors, merci. Au revoir.
C'était l'atelier des médias intitulé « Les filles de la photo, un regard féminin sur l'écosystème de la photographie ». Vous pouvez écouter en podcast, en version longue, cette émission et celle qui précède. Rendez-vous chaque samedi sur l'application de votre choix. On vous recommande évidemment Pure Radio, l'application Android et iPhone entièrement dédiée au contenu audio de RFI. Merci à Guillaume Buffet qui a enregistré l'entretien que vous avez écouté et à Simon Decreuse qui a réalisé cet épisode. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. La semaine prochaine, mon invité sera Edoui Plenel, cofondateur du site d'information français Mediapart, qui a décidé de quitter la présidence de son média. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.